carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Yves-Marie Berset de l'Académie des inscriptions et belles lettres nous emmène en voyage à Rome. Yves-Marie Berset, bonjour.
Bonjour, c'est un beau jour pour aller à Rome. J'espère qu'il y fait beau en ce moment.
Merci d'être venu dans notre studio. Le voyage à Rome à l'époque moderne est un voyage de dévotion, d'études, de tourisme concernant le mécénat, la Rome sainte, ou bien un voyage parce que Rome était l'un des principaux centres du marché de l'art européen. Quoi qu'il en soit, ce voyage, c'était déjà une aventure. Alors pourquoi y va-t-on ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Comment s'y rend-on ? Comment s'y loge-t-on ? Et comment est-ce qu'elle a évolué, cette ville, à partir des gens du XVIe siècle ?
Alors, c'est une ville extraordinaire, c'est une ville unique. C'est, dit un guide de la fin du XVIIe siècle, la capitale du monde. Alors, le mot peut être relativisé dans la mesure où c'est certainement la capitale du monde catholique et c'est la capitale du monde européen jusque au courant du XVIe siècle. La Méditerranée, c'est la mer de l'ensemble du développement européen et avant le XVIe siècle, avant l'expansion vers le nord-ouest, au-delà de l'Atlantique, vers les nouveaux continents à découvrir, l'Europe se concentrait autour du marché méditerranéen et l'Italie était le lieu des échanges tout au long des siècles médiévaux. Rome est donc au cœur d'un système géo-économique qui est pluriséculaire. Et puis, je crois que c'est une coïncidence qui ne résulte pas du hasard, c'est la capitale de la catholicité puisque c'est sur l'emplacement du tombeau du premier apôtre que la papauté, la tête de l'Église catholique, s'est établie. Capitale d'un monde méditerranéen, capitale de la catholicité, ville héritée de l'Antiquité la plus glorieuse, la plus monumentale de l'Antiquité romaine, ville pieuse, ville d'art, ville de soleil, ville artificielle, ville d'utopie où le pouvoir temporel des papes s'exerce à faire affluer les moyens d'approvisionnement, les moyens aussi de logement, les moyens de protection sanitaire, dans la mesure où, par exemple, on sait seulement à Rome qu'à partir du XVIe siècle, on va avoir le plus grand nombre de fontaines et d'aqueducs qui conduisent l'eau depuis les monts Albins ou depuis les montagnes de la Sabine et où, même au cœur de l'été, tout le monde a de l'eau à satisfaction et où l'eau coule dans les fontaines et dans les rues. Donc, il y a un petit aspect de cité merveilleuse qui est volontaire et qui ne peut pas ne pas attirer les fidèles, les curieux, même des pays protestants, et on dira les artistes, tous les amis de la civilisation, des civilisations antiques, dont les monuments sont là, sous les yeux. On va redécouvrir toutes les valeurs, toutes les significations des arts antiques.
Oui, vous disiez tout à l'heure, la chaleur de l'été, il y avait des fontaines, mais il y avait aussi le paludisme l'été.
Alors, la ville de Rome se situe au milieu d'une grande plaine alluviale, au bout du cours du Tibre, qui aboutit dans la mer Tyrrhénienne par une zone de terre basse, marécageuse, où, depuis des siècles, est endémique le paludisme. Le paludisme, qui est donc un parasite du sang, qui est inoculé par une certaine espèce de moustique, qui est donc virulent à partir dès que la température dépasse 15 degrés. Et à Rome, c'est donc vers le mois de mai, et c'est surtout à l'automne, que va y avoir un regain d'efflorescence d'un parasitisme des moustiques. Et le paludisme, donc, entraîne, pour ceux qui sont nés sur place, une espérance de vie très brève, mais aussi une inertie, si vous voulez, puisque quand on est subi quand on subit des crises de paludisme qui vous épuisent, qui ont généralement du caractère de la fièvre tierce, on n'a pas de volonté, on a très peu d'énergie, on meurt à 30-40 ans. Et donc, ça, c'est le sort des gens qui habitent dans les campagnes malariques, paludéennes. Ceux qui le peuvent cherchent à y échapper. Ça veut dire qu'à partir des premiers beaux jours, Rome se vide de ses habitants. Beaucoup de notables et des grandes familles vont se réfugier dans les castelli, dans des, voilà, ce qu'on appelle les castelli, les petites châtellenies des monts Albins au sud, où on est à 150-200 mètres au-dessus du niveau de la mer, où il y a de la végétation, on échappe au miasme paludéen et où toutes les grandes familles ont des ce qu'on appelle des villets, ou on dit aussi des vignées, des vignes, ou des orties, des jardins. Et la cité, à ce moment-là, est donc en grande partie abandonnée. Il faut dire qu'il y a cependant des quartiers qui sont plus protégés que d'autres en fonction de la direction des vents. D'une manière générale, il ne faut pas habiter trop près du Tibre et des courants d'air venant du Tibre, ça c'est évident pendant les mois d'automne. Alors il arrive par exemple dans les annales du paludisme qu'un conclave se soit tenu au palais du Vatican pendant les mois d'été et où un très grand nombre de membres du conclave, c'est-à-dire non seulement les cardinaux, mais aussi l'assistant ecclésiastique, chacun des cardinaux a droit à avoir un compagnon, un serviteur qui lui sert de secrétaire pendant l'enfermement du conclave, et donc une sorte de conclave tragique où plusieurs, une dizaine de prélats ou de leurs secrétaires sont venus à mourir pendant l'élection pontificale. Alors ça, c'est une anecdote du début du XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui pèse terriblement sur le Latium et qui ne sera extirpé qu'avec l'assainissement des marais pontins dans les années 1930.
Oui, Mussolini est passé par là.
C'est Mussolini qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la province de Latina, qui tient à ce qu'il ne s'agissait pas seulement de drainer, il s'agissait d'établir un peuplement permanent qui puisse, de gens qui seraient possessionnés, qui recevraient un titre de propriété, et qui serait donc présent constamment pour entretenir les fossés, les rigoles. Et dans la conjoncture des années 1930, c'était des anciens combattants de la guerre de 14-18 à qui on donnait des lotissements. Alors, la combinaison des deux, de la politique sociale du fascisme au lendemain de la guerre et de cette volonté d'aménagement, a fait que cet assainissement-là a été efficace. Mais bien sûr, au XVIIe siècle, on ne savait pas quelle était l'origine, le mécanisme de l'infestation paludéenne. Simplement, tout le monde avait constaté que le seul moyen d'y échapper, c'était de fuir. La ville l'était.
Alors, on va parler un tout petit peu, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à dire et que vous avez beaucoup de choses à dire sur le voyage à Rome, un tout petit peu des moyens pour y aller. Parce que c'est déjà une aventure, quel que soit le lieu de départ, Europe du Nord ou la France.
On peut envisager plutôt deux grands itinéraires. Pour les Français, le choix, à vrai dire, d'abord semble être la préférence pour la voie maritime. En effet, vous embarquez à Marseille ou à Toulon et vous débarquez à Civitavecchia, Ostie, le port antique est à ce moment-là, effectivement, encore une fois, paludéen. Donc, on débarque à Civitavecchia, qui est un peu plus au nord, qui est l'arsenal des galères des papes, qui est une petite ville qui est en liaison constante avec Toulon ou Marseille.
Mais pour les Français, est-ce que déjà ils ne prenaient pas le bateau en descendant le Rhône depuis Lyon ?
Alors, ben, s'ils viennent de plus au
nord, effectivement. Parce que c'était un voyage assez facile pour eux.
Il est vrai que la voie d'eau est toujours la plus agréable. On imagine ce qu'étaient les longs voyages sur les routes chaotantes et avec un grand train de bagages, puisqu'on partait pour l'Italie pour plusieurs mois. Donc, un personnage d'une certaine considération emportait avec lui sa domesticité, son équipage, ses chevaux, ses mâles. Et bien sûr, c'est le voyage par coche d'eau qui est, pour la descente du Rhône, le plus évident. Alors ensuite, on s'embarque sur la mer Méditerranée et on aboutit à Civitavecchia. Alors l'ennui, on peut quelquefois rencontrer des pirates barbaresques dans le golfe de Gênes. Et puis, il y a des bourrasques aussi qui peuvent être dangereuses. Alors, si vous voulez vraiment, vous pouvez préférer, mais elle est beaucoup plus longue, la voie de terre. Aujourd'hui, on imaginerait qu'il serait suffisant de suivre la ligne des côtes. Or, en fait, dans le territoire de la République de Gênes, la Ligurie, la montagne tombe à pic sur la Méditerranée. On l'a franchie au 19e ou 20e siècle par des tunnels autoroutiers ou ferroviaires. Mais bien sûr, tout ça n'existait pas à l'époque moderne. Et la Via Aurelia, qui est la grande route consulaire qui part de Rome vers le nord-ouest, c'était la route d'Orléans, si vous voulez, était donc impraticable. Donc, si vous voulez éviter une traversée dangereuse, vous pouvez obliquer par les cols des Alpes, le Mont-Cenis, le col de l'Arche, c'est-à-dire donc nécessairement à partir du mois de mai, après la fonte des neiges. Si vous arrivez par le Mont-Cenis, vous arrivez sur les plaines du Piémont, sur le Val d'Aoste, si vous voulez. Et alors ensuite, vous traversez le Piémont, vous traversez la Lombardie, et généralement, les voyageurs vont se faire le plaisir d'aller à Venise. On descend là aussi par un cours d'eau, on s'embarque sur le Pô, et on peut faire une descente facile à partir d'une ville en Lombardie, on va s'embarquer et descendre jusqu'à Crémone, généralement, souvent on s'embarque. Et on descend jusqu'à Venise, et là, le touriste moyen, on peut dire un touriste, puisque un touriste, c'est quelqu'un qui fait le grand tour, et c'était la formation idéale pour des jeunes gens de toute l'Europe de ce temps. Donc ce sont vraiment des gens qui font un tour, ils sont des touristes. Et après avoir visité Venise, ils vont soit suivre la côte adriatique et gagner une autre via consulaire, la Flaminia, qui trouve à Rimini. Et s'ils suivent la Flaminia, ils vont traverser l'Apennin et alors peut-être vont-ils faire un détour par Florence, par visiter les couvents franciscains d'Assise ou le pèlerinage de Lorette où se trouve à la maison de la Vierge. Et puis, au bout du compte, en continuant la Flaminia, ils arriveront à Rome. Ils arrivent à Rome à ce moment-là par la place du peuple, la porte du peuple qui est l'extrémité ou le point de départ, comme on veut, de la Flaminia. Là, c'est l'entrée symbolique dans Rome et c'est le point qui va attirer l'attention des papes pour construire un accès, un accueil merveilleux, digne de la réputation de Rome.
Quel est le rôle des papes, justement? Parce que les papes se suivent à une vitesse assez rapide, mais il n'empêche qu'il y en a qui sont quand même des constructeurs.
Eh bien, si vous voulez, l'habitude paresseuse des historiens, c'est de dire qu'il y a deux sortes de papes, ceux qui sont les spirituels, qui sont plus attentifs aux problèmes essentiels de l'Église, et puis des papes temporels qui vont être des gouvernants politiques et qui investissent plus de leur attention dans l'administration du territoire de l'État ecclésiastique dans l'Italie centrale et de la ville de Rome en particulier. Alors, parmi ces papes que l'on dira temporels, un des plus illustres, c'est à la fin du XVIe siècle, Sixte Quint, et puis au XVIIe siècle, Urbain VIII Barberini a régné assez longtemps, de 1624 à 1643. Et puis un troisième, alors Alexandre VII Chigi, de 1655 à 1664. Voilà, tout ça, c'est des papes urbanistes, constructeurs, qui ont transformé prodigieusement le paysage urbain romain.
Oui, donc l'espace urbain a changé à partir du XVIe tout le temps. Parce qu'on découvrait, on fouillait, on reconstruisait et on réemployait.
Voilà, il faut imaginer ce qu'était la Rome du XVe siècle. À ce moment-là, les papes y reviennent après l'éclipse politique d'Avignon. Et Rome est encore, on dira, une petite cité décadente, ruinée du Latium. Et c'est au cours du XVe siècle que des grands pontifes comme Pie II, Paul II, Sixte IV vont entreprendre de faire construire des palais, de nouvelles résidences. Par exemple, de cette époque date le palais de Venise qui est construit, je crois, par Paul II, et qui va devenir la résidence des ambassadeurs de Venise auprès du pape, d'où son nom. Le palais Capranica, qui donne l'idée de ce qu'est une résidence de grandes familles féodales, c'est-à-dire des familles qui sont puissantes, qui ont un prestige parce qu'elles possèdent une grande partie des territoires, des domaines du Latium, et que par leur situation politique et économique, elles peuvent pousser un de leurs membres, de leurs héritiers, jusqu'au trône de Saint-Pierre. Alors dans ces grandes familles, on connaît par exemple les Orsini, les Colonna. Alors le palais des Orsini, il est aujourd'hui encore conservé dans son apparence de forteresse. C'est ce qu'on appelle le théâtre de Marcellus, qui se trouve au pied de la colline du Capitole et à l'entrée du ghetto, de l'enclos qui était réservé aux Juifs. Et là, c'était le ghetto se trouve à peu près à l'emplacement du marché aux poissons de la Rome antique, c'est-à-dire qu'on est tout près de la rive du Tibre. Alors le théâtre de Marcellus a gardé encore aujourd'hui cette apparence de forteresse que lui avaient donné les Orsini. Un autre exemple, les marchés de Trajan avait été transformé en forteresse pour les milices romaines. Et c'est au-dessus des arcades des marchés de Trajan. Aujourd'hui, c'est sur la gauche de la voie des forums impériaux. Vous avez ce qu'on appelle la tour des milices, qui est une tour du XIVe, XVe siècle, qui est une sorte de tour de guet des milices des quartiers de Rome. Le Colisée formait un bloc de remparts qui occupait aujourd'hui l'espace qui est celui du théâtre, et puis aussi l'espace d'avenue où est érigé l'arc de Constantin. L'ensemble formait le château des Frangipani, qui était une grande famille de Croatie, qui était leur nom en croate, c'est Frankopan, Frangipani. Et c'est seulement à la fin du XVIe siècle que le Colisée, et en fait que surtout l'arc de Constantin, a été dégagé de cette masse de briques. Donc on a une ville où ces grandes familles féodales ont parasité l'espace antique, et c'est seulement au cours du XVIe siècle, avec alors des papes munificents. J'ai cité tout à l'heure des papes que je qualifiais de grands urbanistes, mais j'ai oublié de dire au passage, Jules II, au début du XVIe siècle, s'appelait la famille Della Rovere, qui vont devenir les souverains ducs d'Urbain, d'Urbino. Et puis ensuite les papes Médici, qui veulent transférer à Rome la même volonté de beauté, d'esthétisation du paysage urbain que dans leur ville natale de Florence.
Tout à l'heure, vous disiez que les papes avaient voulu faire aussi des villes utopiques parce que c'était le paradis sur terre. C'est dans cette optique-là qu'ils ont fait cela, les constructeurs ont fait ces grands travaux.
C'est une idée qui est très présente dans l'imaginaire médiéval. On imagine le paradis comme une cité sainte et la volonté d'un édile communal du XIVe ou XVe siècle est de transformer sa patrie, son village, sa ville en une représentation, une préfiguration du paradis, du paysage du paradis. Donc un urbanisme, l'idée d'un urbanisme utopique, c'est quelque chose qui est très vivant, très profond dans la mentalité des Italiens du XIVe au XVIIe siècle.
Alors comment s'y logeaient tous ces gens, tous ces pèlerins ou ces touristes ?
La ville a cette ville artificielle, réunit une population très importante relativement pour l'époque, puisqu'il y a à la fin du XVIe siècle environ plus de 100 000 habitants, avec une croissance régulière, avec des apports extraordinaires dans les années de jubilé, qui reviennent tous les 25 ans. Ou alors là, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui affluent, en plus de la population permanente. Ensuite, il y a, au cours du XVIIe siècle, la seule, en 1656, le seul épisode de peste qui atteigne Rome. La ville avait jusque-là pu passer au travers des vagues pesteuses qui sont arrivées en Europe en 1347-48. Et alors que Naples, Venise, Palerme, Milan avaient subi des catastrophes, Rome y avait toujours échappé. C'est en 1656 qu'on a le 14 000 morts, ce qui est peu de choses par rapport au cas de Naples où la même année, il y a 200 000 morts. Donc il y a une véritable politique de la santé qui est assez bien organisée à Rome. Alors là, on est retombé, on reste aux alentours de 100 000. Et puis, il y a une croissance, une dynamique régulière de croissance, de sorte que 1700, on a monté à 150 000 habitants. Alors, vous voyez, 150 000 habitants à l'époque moderne de population stable, plus une population flottante de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de voyageurs.
Ça faisait aussi beaucoup de dangers, des brigands, des prostituées.
Alors, des brigands, non. En fait, la réputation traditionnelle un peu plaisante des brigands de comédie qui va faire florès au XIXe siècle provient plutôt des séquelles de la période révolutionnaire et napoléonienne qui fait qu'une insécurité s'est établie dans les confins des zones frontalières entre le royaume de Naples et l'État ecclésiastique, c'est-à-dire dans les Abruzzes, dans les routes qui vont vers Naples ou qui vont plus au sud vers la Sicile. En fait, l'État ecclésiastique est très pacifique, les routes sont sûres. Alors, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais là, les congrégations temporelles de la papauté sont en charge d'assurer cet approvisionnement. La congrégation qui achète les grains, c'est la congrégation de la nonne. C'est une congrégation, c'est une assemblée de cardinaux qui sont chargés d'une mission particulière à l'intérieur du gouvernement de l'Église. C'est Sixte Quint qui a généralisé le gouvernement, c'est-à-dire fin XVIe siècle, le gouvernement par congrégation. Or, la congrégation de la nonne, c'est une congrégation qui a une mission temporelle. Il s'agit d'acheter suffisamment de grains pour approvisionner les 150 000 ou 200 000 habitants qui se trouvent dans l'enceinte de Rome. Alors, on va acheter des grains en Toscane, dans les Marches, ou en Sicile, et dans ce cas-là, il faut les faire venir par mer. Il faut approvisionner en viande. Alors, la viande vient des troupeaux de transhumance des Abruzzes et qui vont l'hiver dans les marais pontins et puis qui l'été remontent dans les Abruzzes. Et ça représente des troupeaux de 150, 200 000 ou beaucoup plus, moutons, et puis aussi des chevreaux. On consomme énormément de chevreaux dans la, on dirait, on s'appellera la cuisine. J'allais dire la gastronomie, ce sera un peu exagéré, mais enfin, la cuisine romaine. Et puis des petits vins, des castelli, qui sont des petits vins blancs qu'on consomme dans des fiasques. Mais ça, tout ça, ça existe déjà au XVIe siècle. Alors, c'est une ville, finalement, où on dépense énormément d'argent. C'est une ville qui est chère, une ville qui est assez luxueuse, puisque ce sont des gens qui ont des moyens qui viennent là. Et dans la mesure où l'État ecclésiastique, la papauté, draine des revenus qui viennent un peu de l'ensemble de l'Europe ou de l'ensemble de l'État ecclésiastique pour maintenir le train de vie romain. L'organisme financier de la papauté, c'est ce qu'on appelle la RCA en sigle, Reverenda Camera Apostolica, c'est le ministère des Finances de la papauté, et c'est elle qui est bien sûr en charge de contrôler tous ces moyens énormes qui sont nécessaires.
Mais comment est gouvernée Rome ?
Alors, à Rome, le pape est l'évêque de Rome. Il y a 82 paroisses, mais je parle là d'un point de vue spirituel, puisque le pape est toujours à la fois un souverain chef spirituel et un souverain temporel. Alors, en tant que père de l'Église, il est l'évêque de Rome, et je vous dis qu'il peut aller effectivement à travers les paroisses de Rome. Les cardinaux sont titulaires de l'Église de Rome, et il faut dire que la notion de paroisse n'est pas en Italie tout à fait comparable à ce qu'elle est dans l'histoire du catholicisme français, par exemple, dans la mesure où en Italie, il y a un très grand nombre de dessertes spirituelles territoriales qui est faite par des couvents, par des religieux. Et je dis qu'il y a 82 paroisses, il y a beaucoup plus de chapelles, de couvents. C'est une ville où partout sonnent les messes, où vont les fidèles au hasard des rues. Ensuite, comment est gouvernée la ville matériellement ? Eh bien, il y a un personnage qui s'appelle le préfet de Rome, c'est un terme qui est hérité de la titulature latine, antique, qui est chargé donc de contrôler cette administration. Et comme dans les villes italiennes, il y a une administration communale, mais elle a très peu de pouvoir. Elle siège sur les palais qui sont au sommet du Capitole, où il y a le palais des sénateurs et le palais des conservateurs. Et puis, alors si vous voyez la place du Capitole, elle a été aménagée elle aussi par Michel-Ange, rien moins, hein, au cours du XVIe siècle. Et les palais n'ont été élaborés que, achevés que sur plusieurs décennies. Au centre, on a la statue de Marc Aurèle qui est, je crois, établie en 1538. Sur la droite, on a le palais des conservateurs. Au fond, avec l'horloge, le palais des sénateurs. Sur la gauche, le palais neuf, Palazzo Nuovo. Et un peu sur la pente, après un long, au haut d'un grand escalier, l'église de la Racelli, qui est une église où il y a le Bambino Gesù, qui est le plus grand lieu de pèlerinage marial de Rome, pour les, je dirais, spécialement attachés à la protection de la Rome et des Romains. Non, ce que je veux dire, c'est que ces gens qui siègent parmi les conservateurs et les sénateurs ont des mandats extrêmement brefs. C'est un principe qui est suivi à peu près dans toutes les institutions communales italiennes. C'est-à-dire qu'on se méfie énormément de l'emprise que pourrait avoir une famille puissante qui s'érigerait en tyran de la cité. C'est ce qu'on redoute. Donc, on limite le mandat de ces personnages à un an, ou quelquefois même à des périodes de 3 mois. Ils sont renouvelés constamment. Cependant, il y a tout de même une sorte de classe des notables et des marchands, des gens de métier. Parce que pour loger, nourrir, approvisionner tous ces gens,
et distraire,
il faut des boutiques et des gens de métier. Donc, c'est une ville qui travaille. Il y a 5200 au moins boutiques réparties dans tous les quartiers. Et alors, ce qu'on dira pour la distraction, il y a des spectacles de farces, de théâtre à partir du XVIIe siècle. Il y a des spectacles d'opéra, de chant. Là aussi, c'est au courant du XVIIe siècle qu'ils vont se populariser, se généraliser. Il y a, on peut dire aussi qu'il y a dans les liturgies, dans la musique qu'on entend dans les églises, une sorte de distraction spirituelle que sont les oratories, les oratorios, qui est une forme d'opéra spirituel joué dans l'église, avec des motets, enfin des morceaux religieux qui ne sont pas liés à la célébration de la messe et qui peuvent s'articuler sur un épisode de l'histoire sainte ou des évangiles, ou de légendes de dessins. Alors, il y a aussi alors des fêtes privées. Il y a énormément de ces grandes familles. J'ai évoqué les familles féodales, mais il y a un renouvellement constant des fortunes. Et il y a des familles florentines, notamment les Barberini, les Medici, bien sûr.
Les Pamphili.
Les Pamphili. Et ces familles vont construire de nouveaux palais. La structure, ce qu'on appelle un palais dans l'urbanisme romain, c'est généralement un édifice considérable, avec des cours intérieures, de nombreux étages et des plafonds, des sous-plafonds, des greniers, des caves profondes, et donc comme une sorte de forteresse, de village, puisque au service d'une grande famille, il peut y avoir 100, 200 personnes qui logent là, à l'intérieur du palais. Chacune constitue une entité, comme un petit village à part. Il faudrait peut-être dire un mot aussi de... On connaît très bien, avec la plus grande minutie et la plus grande exactitude, les répartitions de la population par quartier, par type d'habitat et par genre. Les recensements romains nous annoncent qu'il y a environ 600 à 700 prostituées qui sont généralement dans les quartiers centraux du Champ de Mars, autour du Corso. C'est la prostitution est autorisée, elle est contrôlée, mais elle est parfaitement autorisée. Et il y a ensuite le quartier juif qui représente aussi une entité spécifique dans la mesure où c'est seulement depuis le début du XVIe siècle que les communautés juives ont été limitées dans des enclos d'habitat entourés de murs qui correspondaient aux usages sociaux de l'époque et aussi aux demandes des autorités cultuelles israélites qui souhaitaient pouvoir célébrer leurs fêtes rituelles sans être moqués, bousculés, rejetés. Donc, la construction des ghettos n'était pas un enfermement brutal. Ça vient au début du XVIe siècle et ça correspond aussi aux souhaits de ces communautés israélites. Ils sont nombreux dans l'État ecclésiastique. Les papes les ont toujours tolérés depuis le début déjà au XIIe siècle. Mais ils ont accueilli tout particulièrement depuis la fin du XVe et le début du XVIe siècle, où les Juifs ayant été expulsés à ce moment-là
d'Espagne
puis de Portugal. Et beaucoup des familles séfarades, donc, de tradition séfarade, donc, se sont établies à Rome, à Hong Kong, à Pérouse, enfin, dans beaucoup, même de petites villes de l'État ecclésiastique. Alors, ils ont des métiers spécialisés. Ils sont alors 2 à 3 000 environ à Rome. Et beaucoup, enfin une partie tout au moins, exercent le commerce de l'argent, du change et du prêt à intérêt qui est nécessaire en quelque sorte à la dynamique de circulation. Alors, les taux sont beaucoup plus élevés que ne pourrait se le permettre, je dirais, le commun des pauvres gens. De sorte que pour échapper aux exigences que ne pourraient pas supporter les simples paysans qui ont besoin, par exemple, d'argent pour leur semaille, on a érigé, et ça c'est une tradition franciscaine, des monts de piété. Le mont de piété de Rome est de 1539, je crois, et où là on a un prêt à 2%, alors que le prêt dans le ghetto peut être à 18%.
Oui, il y avait toute une installation, parce qu'il y avait aussi, on va terminer par là, en fait, vraiment un grand marché de l'art européen à Rome.
Alors voilà, puisqu'on découvrait l'Antiquité, les peintres, les sculpteurs, très tôt, viennent à Rome pour trouver des modèles et aussi collectionner, acheter. Le métier d'antiquaire se forme à ce moment-là. C'est en 1544, je ne sais pas si on l'a dit, le premier plan de la Rome antique, où on prend conscience, si vous voulez, qu'on coexiste sur le souvenir de la Rome latine. Et on va spontanément, ou aussi avec les édits des papes, dégager une zone archéologique qui, on n'aurait pas employé ce mot, bien sûr, mais enfin, des terrains dans lesquels on évite de construire. Grosso modo, c'est depuis le Capitole jusqu'au pied du Capitole, quoi.
C'est le forum,
la Via Sacra, avec d'un côté, au pied du Capitole, l'arc de Septime Sévère, un peu plus loin, à l'autre bout, l'arc de Titus. Et en allant vers le Tibre, on a les collines du Palatin, et au pied du Palatin, les thermes de Caracalla. Et la zone du Colisée, et puis de l'arc de Constantin, dont on a dit qu'il était dégagé la forteresse Frangipani, forme tout un ensemble là, où on ne construit pas, déjà, où on admet qu'on ne va pas ériger de nouveaux quartiers au XVIe siècle.
Donc il y a une forme de sauvegarde qui commence à se faire jour, mais il y a quand même beaucoup de réemploi.
Oui, on a fait beaucoup de réemploi au Moyen-Âge. Je pense que on le ferait moins. Alors bien sûr, la curiosité antiquiste s'attache à des objets rarissimes, c'est-à-dire trouver une magnifique statue, trouver un trésor d'un temple. Et ce n'est pas le caractère de fouille archéologique scientifique. C'est plutôt l'appât du gain, de la recherche de,
ou de l'esthétique,
découvertes exceptionnelles, voilà, ou de l'esthétique. Mais c'est la formation du goût, et il va y avoir donc en même temps un commerce de l'art, et l'apparition alors dans les années, deuxième partie là, du XVIIe siècle, des marchés d'art, des galeries, vous voyez, où souvent dans un cloître d'une église, où on expose, où des peintres viennent exposer leurs œuvres, et où il y a des visiteurs et des gens qui achètent. Oui. C'est la naissance d'un marché de l'art.
Ça, c'est nouveau. Les galeries de peinture sont les premières à Rome.
Les premières à Rome, les dates exactes, je ne les ai plus en mémoire, mais c'est grosso modo entre 1650 et 1680. Et après, ça se multipliera.
Eh bien, merci beaucoup Yves-Marie Bercier de nous avoir montré en particulier comme la Rome baroque a complètement transformé la Rome médiévale en redécouvrant les antiquités.
Un mot tout de même pour dire que dans cette reconstruction extraordinaire, on a oublié de citer l'érection de colonnes antiques et d'obélisques qui jalonnent désormais les perspectives romaines et qui sont une volonté du pape Sixte Quint dans les années 1590 grâce à l'ingénierie technique de Domenico Fontana, qui avait inventé des machines qui permettent de relever ces énormes tonnes de pierre que sont la colonne Trajane ou la colonne de Marc Aurèle ou les obélisques du Vatican ou de la place du Peuple.
Et c'est à ce moment-là qu'elles ont été mises en situation où là, on peut les voir encore maintenant.
Oui, et on les sortait des ruines de stades ou de palais pour les transférer dans des places monumentales créées de toutes pièces où elles devenaient un objet nouveau, une perspective inédite et christianisée, puisqu'on mettait souvent une croix ou une statue d'apôtre au-dessus du monument.
Oui, la chrétienté avait récupéré tout ce qu'elle pouvait pour voir la Rome antique
pour
chrétienne
reconstruire,
et reconstruire.
Construire une autre ville.
Oui. En utilisant parfois tout ce qui était paléo-chrétien aussi,
oui,
je pense.
Oui, bien sûr. Mais il s'agissait vraiment, dans l'idée des papes, d'offrir aux milliers de fidèles qui arrivaient des spectacles insolites qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Je n'ai même pas évoqué la lente construction des perspectives de Saint-Pierre qui occupe tout le XVIIe siècle, mais ce sera une autre histoire.
Oui, XVIIe, bien sûr, c'est une autre histoire pour vous, parce que vous êtes intarissable. Merci Yves-Marie Bercier.